y a chez les hommes quelque chose qui profondément les pousse à aller plus loin, plus haut, plus vite. Et c'est incontestablement le moteur du progrès. C'est très important.
Ce n'est pas à un psychiatre de dire si on est un homme ou une femme ou entre les deux.
C'est assez la paix sociale est terminée.
Langue de fronde. Une émission féministe, meuf, gouine, trans.
Langue de fronde.
Soy mujer, soy MC, soy quien soy, aquí estoy. Alístense grafiteros, MC, DJ, B-Boy, que hoy verán como hip hop hay que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y lírica cruda. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la mujer solo sirve para la limpieza? Podemos ser raperas, lo que quieras.
Avoir avalé sa langue.
Avoir quelque chose sur le bout de la langue.
Avoir la langue bien pendue.
Avoir un bœuf sur la langue.
Avoir un cheveu sur la langue.
Délier les langues.
Donner sa langue au chat.
Tirer la langue.
Tourner 7 fois sa langue dans sa bouche.
Ne pas avoir sa langue dans sa poche.
Se mordre la langue.
S'ennuyer à avaler sa langue.
Tenir sa langue.
Langue de vipère.
Langue de bois.
Langue de pute.
Mauvaise langue.
Et vous êtes bien sur Langue de Fronde, sur FPP 106.3 FM. Alors, comment on s'appelle Langue de Fronde ? Eh ben, on a eu envie de faire une émission sur le thème des langues. Est-ce que, Céline, tu veux bien commencer par nous raconter quelque chose sur la langue ?
Mais tout à fait. La langue, quel organe ? C'est parti pour une visite de votre cavité buccale, le vestibule, c'est-à-dire l'entrée de votre tube digestif. Entre muqueuses et musculeuses, bienvenue dans votre bouche, ce palais buccal. Je vous invite à tirer votre langue et à faire devant une glace, maintenant, ce soir ou plus tard, pour vous rendre compte de son étendue. Ovale, petite, grosse, déchiquetée ou non, blanche, sa forme, sa couleur sont très variables en fonction des individus. Autant d'indices sur la santé de cet organe. En médecine chinoise, on la regarde avec attention pour mieux vous connaître. Par exemple, elle révèle quelle tolérance vous pouvez avoir pour certains aliments, ceux que vous ingurgitez notamment. Et elle représente l'état de votre flore bactérienne. Elle est constituée de muscles et de muqueuses, 17 muscles pour être précise. L'insertion arrière de la langue est plutôt fixe, alors que le corps de la langue, lui, est tout à fait mobile et permet de multiples mouvements. Certains des muscles de la langue s'insèrent d'ailleurs depuis l'os hyoïde, qui est vraiment à la partie supérieure du cou, au-dessus de l'os thyroïde, celui qui a une forme de pomme d'Adam pour certains et certaines personnes. La langue repose sur une membrane tendue entre l'os hyoïde, dont je viens de vous parler, et se termine au niveau de la mandibule, c'est-à-dire le menton et les deux arcs sur les côtés qui vont jusqu'aux oreilles. À LDF, langue de fronde, on a été attiré par deux muscles. Par exemple, le géniogloss. Il permet de tirer la langue à qui vous voulez. Rien de mieux parfois que le langage non verbal pour se faire comprendre. Ce muscle permet aussi d'éviter que la langue tombe en arrière au risque de venir boucher les voies respiratoires. En effet, la langue, et surtout sa base, est au carrefour des voies respiratoires et digestives. Le styloglosse s'insère depuis l'os temporal, qui correspond aux tempes.
Ça va, le temps.
Ces os sont entre les yeux et au niveau des et entre les yeux et le haut des oreilles. C'est l'endroit que vous pouvez vous masser avec des petits mouvements circulaires lorsque vous avez envie de vous ressourcer après avoir généreusement tiré la langue pendant toute une journée. Ce muscle s'insère de la pointe de l'os temporal jusque sur la langue. Il tire la langue en haut et en arrière pour vous permettre l'aspiration, la succion et le fait d'avaler. Alors, qu'est-ce qu'on peut avaler ? Par exemple, sa salive. On sécrète environ 1 à 2 litres de salive par jour. Alors, la salive, c'est du sang filtré et elle permet de renforcer l'émail de vos dents en donnant des ions calcium. Elle permet d'apprécier les goûts différents en humidifiant les aliments. La circulation de la salive empêche le développement de certaines bactéries, mais crée aussi un environnement favorable pour votre flore bactérienne, qui participe à l'équilibre de votre bouche et à sa bonne odeur. Évitez d'avaler votre langue, car en plus de vous permettre de mastiquer, de déglutir, d'aider à la fondation, elle permet aussi l'appréciation des goûts des aliments. Les papilles permettent de ressentir l'acide, l'amer, le sucré, le salé. Et combinées à toutes les terminaisons nerveuses de la bouche, elles vous permettent d'apprécier l'eau chaude, le froid, la texture. Les aliments ensuite mastiqués dégagent une odeur que votre nez pourra interpréter. La bouche est un des endroits au niveau du corps où il y a le plus de terminaisons nerveuses. La langue et la bouche sont donc des endroits très sensibles. Qui n'a pas passé une journée à essayer d'enlever un morceau d'aliment coincé entre deux dents avec sa langue, allant même j'ai risqué de le faire au doigt. Une micro-coupure ne passe pas inaperçue. Dans la salive, il y a même une substance qui permet d'anesthésier un peu la bouche. C'est l'opiomorphine. C'est le fait de mâcher qui l'active. Un peu stressée par la radio, avant de venir, j'ai donc cherché frénétiquement un petit chewing-gum dans un vieux paquet. Alors, dernier petit conseil santé. La langue sert à déglutir, mastiquer, goûter, articuler. N'hésitez pas à prendre le temps d'apprécier tout ce qui passe et tout ce qui se passe dans votre bouche.
Merci Céline. Merci.
Alors après cette définition très organique, je vous propose de revenir sur l'une des expressions qu'on a utilisées tout à l'heure, à savoir avoir la langue bien pendue. Alors, qui a la langue bien pendue ? En général, les meufs bien sûr, avec ce stéréotype des femmes qui piaillent, qui sont bavardes, qui sont pipelettes, etc. Mais en réalité, comment se répartit la parole et qu'est-ce qu'on attend des femmes dans ce boulot ? Parce qu'il s'agit bien de ça, il s'agit d'un travail de conversation asymétriquement réparti entre les hommes et les femmes. À ce propos, je vous invite donc à lire la brochure de Corinne Monnet qui s'appelle « La répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la conversation ». Donc ce texte a été publié dans la revue NQF Nouvelles questions féministes en 1998. Et il s'appuie sur de nombreuses recherches sur la communication et montre comment la conversation, loin d'être une activité anodine et spontanée, est traversée par des rapports de pouvoir. Donc ce texte s'intéresse en fait particulièrement aux différentes formes que peut prendre la domination masculine dans le domaine de la conversation et permet du coup de prendre conscience que la lutte contre le sexisme, ça passe aussi et surtout par un changement de nos comportements au quotidien. Donc ce texte en pratique, il détaille et il analyse d'une part les pratiques conversationnelles des hommes, comme interrompre les femmes, faire des réponses minimales, poser peu de questions. En miroir, le texte parle des pratiques conversationnelles des femmes, comme poser des questions, relancer les conversations. Le texte détaille également le choix des sujets selon le genre et ce qui se passe aussi quand les femmes sortent des pratiques conversationnelles assignées à leur genre et que, par exemple, elles interrompent un homme qui parle. En tout cas, la conclusion de cette brochure, c'est que la conversation est un travail, que c'est un travail genré et asymétrique. Et moi, j'ajouterais même que ça peut sans doute être rapproché de l'ensemble du travail du care, à savoir l'entretien des êtres humains et des relations, et voilà, qui est un travail essentiellement dévolu aux femmes. Moi, c'est un des tout premiers textes féministes que j'ai lus. Il est hyper accessible et limpide. Sous la forme papier, il est diffusé par Dégenré et on peut le lire en ligne sur Infokiosque. Donc, je rappelle son titre, « La répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la conversation » de Corinne Monnet.
Merci Maïk. Et on va tout de suite enchaîner avec un petit montage à partir d'une lecture du livre « Les mots sont importants ». 2010 de Sylvie Tissot et Pierre Thévagnan. Donc le livre n'est pas tout neuf, il date de 2010, mais la critique qui est faite à l'intérieur de la langue des médias et des politiques est toujours bien d'actualité. Et donc, c'est des extraits de la conclusion « La langue des maîtres et sa fabrique ». Bonne écoute. Les médias que nous critiquons sont les médias dominants, et de ce fait, leur langue spontanée n'est au fond pas la leur. La langue première des médias dominants n'est pas la langue des médias, mais la langue des dominants. C'est la langue du MEDEF, la langue des préfectures de police ou du ministère de l'Intérieur, la langue de Tsahal ou du Pentagone. Nos grands médias portent en somme bien leur nom, puisqu'ils ne sont en la matière rien d'autre que des instances de médiation, qui assurent la diffusion massive au sein de la société civile d'une langue qui n'est au départ que le jargon d'un tout petit nombre. Dans la neuve langue des dominants, on aime bien les euphémismes et les hyperboles. L'euphémisation consiste à positiver du négatif. Dans le discours politique, elle consiste essentiellement à occulter, minimiser et relativiser une violence et ainsi la rendre acceptable. L'armée américaine ou israélienne bombarde toute une population. C'est, nous disent les états-majors et la plupart des éditorialistes, mais aussi bien souvent les journalistes d'information, une simple incursion ou une frappe. Un policier abat un jeune homme en fuite d'une balle dans le dos. C'est une simple bavure et non un homicide. Des contrôles aux faciès sont organisés à grande échelle sur l'ensemble du territoire, suivis de rafles, d'enfermements dans des camps et d'expulsions forcées. Il ne s'agit que de maîtrise des flux migratoires, d'interpellation, de placement en rétention et de reconduite à la frontière, voire de rapatriement. Une entreprise organise un licenciement collectif. C'est un plan social, terme le plus fréquent, ou mieux encore, mais le terme n'a pas encore été pleinement adopté par les journalistes, un plan de sauvegarde de l'emploi. À cette occultation de la violence des dominants s'oppose comme en miroir une hyperbolisation de la violence des dominés, ayant pour effet d'une part de disqualifier leurs paroles, d'autre part de donner à l'oppression le visage plus acceptable de la légitime défense. De même, les grévistes qui s'opposent aux réformes sont pathologisés. Le mouvement de décembre 1995 fut ainsi qualifié de vaste épidémie, de fièvre, de délire ou de crispation. Les sans-papiers sont rebaptisés irréguliers ou clandestins et systématiquement associés à des filières mafieuses. Les foulards deviennent des voiles islamiques, voire islamistes, ou des tchadors. La résistance palestinienne ou irakienne est réduite au rang de terrorisme. La critique d'Israël devient un antisémitisme et celle de la suprématie blanche un racisme anti-blanc. Les féministes deviennent des hystériques, animées par la haine des hommes. Et la dénonciation publique du racisme, du sexisme ou de l'homophobie des dirigeants politiques ou des grands éditorialistes devient un lynchage médiatique ou une police de la pensée. Quant aux alternatives à l'orthodoxie économique ou politique, elles sont systématiquement qualifiées d'angéliques, d'irréalistes ou d'irresponsables. Nous ne nous attaquons pas seulement à une neuve langue néolibérale, mais aussi à une neuve langue néocoloniale, fonctionnant à base de refus de la repentance, de fierté d'être français, de dénonciation du communautarisme et de la victimisation, de redécouverte opportuniste du féminisme et de la laïcité. À une neuve langue néo-viriliste, fonctionnant notamment sur la base d'une prétention au courage et d'une critique de l'état maternel. Et à une neuve langue néo-homophobe, remplaçant de plus en plus les références à l'ordre naturel ou à l'ordre divin, par des références plus consensuelles et intimidantes, comme l'ordre symbolique ou l'intérêt des enfants.
Alors, vous êtes toujours sur 106.3 Fréquence Paris Pluriel, l'émission Langue de Fronde qu'on a décidé de consacrer aujourd'hui aux mots et aux mots langue et à ses différents sens. On va continuer du coup sur l'écoute d'un poème qui s'appelle Speak White. Bon, désolée pour mon accent anglais. C'est un poème de Michel Lalonde qui date de 1968. Donc, je vais me permettre d'en parler un tout petit peu avant l'écoute. Du coup, il y aura un peu moins de surprises, mais comme on n'a pas la possibilité de l'écouter deux fois, moi, je connaissais absolument pas le contexte de ce poème. Donc, je pense que c'est un petit peu intéressant de d'en parler rapidement. Donc, Speak White, au départ, c'est au Québec, au Québec du 19e siècle, c'est une insulte à connotation raciste. En fait, c'est une insulte qui est lancée aux Québécois francophones, beaucoup plus pauvres, par les Québécois anglophones de la classe dominante. Donc, il y a un glissement assez étrange et étonnant de la langue anglaise égale la race blanche. Parler blanc, speak white, c'est parler la langue du maître. Le maître est anglais, le pouvoir central est anglophone. Et le pauvre, le prolo, parle français et n'est pas vu comme white. Donc, à travers ce poème, il ne s'agit pas de défendre la pureté et la beauté de la langue française. Et en fait, il ne s'agit surtout pas non plus d'universaliser le vécu des Québécois francophones aux Français, par exemple. Au-delà de cette histoire très particulière du Québec, ce poème parle de l'impérialisme économico-culturel, du patronat et des classes dominantes, et de tous les impérialismes qui oppriment, exercent leur violence et nient la singularité des peuples et des êtres humains. Et ça, comme le rappelle le poème, ça se passe aussi dans les colonies françaises comme ailleurs, au Congo, au Vietnam, en Afrique du Nord, où l'on impose de parler un français atrocement blanc. Là, je cite le poème que vous allez entendre. Donc ce poème, c'est un appel à la solidarité de ces peuples entre eux, avec cette phrase finale « Nous ne sommes pas seuls ». Je cite que ce poème dénonce l'état de la condition culturelle, sociale et économique inférieure des Canadiens français, tout en appelant à une solidarité des peuples opprimés contre toute forme de colonialisme et d'impérialisme. Donc voilà, là je cite l'Encyclopédie canadienne. Pour finir, et pour le gros bémol quand même, ce poème fait l'impasse, je crois, sur le fait que les ancêtres français des Québécois francophones furent eux-mêmes quand même des colons sur ces terres et qu'ils ont participé à opprimer les peuples natifs. Donc voilà, très pragmatiquement, l'origine du truc, c'est quand même que les colons français ont perdu face aux colons anglais qui les ont après largement infériorisés et jusqu'à la constitution de deux classes distinctes. Mais voilà, du coup, ce tabou reste apparemment... Et je me permets juste de relayer ce qu'on m'en a dit de copines québécoises ou qui ont voyagé au Québec. Ce tabou reste quand même très présent au Québec. Voilà, après, je pense que c'est quand même intéressant d'écouter ce poème. Et il est hyper fort. Et moi, la première fois que je suis tombée dessus, voilà, enfin, il met vraiment les larmes aux yeux. Donc voilà, on y va.
Speak white. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats. Speak white. Et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Nelly Gant. Speak white. Parlez de choses et d'autres. Parlez-nous de la Grande Charte ou du monument à Lincoln, du charme gris de la Tamise, de l'eau rose de la Potomac. Parlez-nous de vos traditions. Nous sommes un peuple peu brillant, mais fort capable d'apprécier toute l'importance des crumpets ou du Boston Tea Party. Mais quand vous really speak white, quand vous get down to brass tacks pour parler du gracious living et parler du standard de vie et de la grande société... Un peu plus fort alors, speak white. Haussez vos voix de contremaître. Nous sommes un peu durs d'oreilles. Nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. Speak white and loud, qu'on vous entende. De Saint-Henri à Saint-Domingue, oui, quelle admirable langue pour embaucher, donner des ordres, fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. Speak white. Tell us that God is a great big shot and that we're paid to trust him. Speak white, parlez-nous production, profits et pourcentages. Speak white, c'est une langue riche pour acheter. Mais pour se vendre. Mais pour se vendre à perte d'âme. Mais pour se vendre. Oh, speak white, big deal. Mais pour vous dire l'éternité d'un jour de grève. Pour raconter l'histoire d'un peuple concierge. Mais pour rentrer chez nous le soir, à l'heure où le soleil s'en vient crever au-dessus des ruelles. Mais pour vous dire, oui, que le soleil se couche, oui, chaque jour de nos vies à l'est de vos empires. Rien ne vaut une langue à jurons. Notre parlure pas très propre, tachée de cambouis et d'huile. Speak white. Soyez à l'aise dans vos mots. Nous sommes un peuple rancunier, mais ne reprochons à personne d'avoir le monopole de la correction du langage. Dans la langue douce de Shakespeare, avec l'accent de Longfellow, parlez un français pur et atrocement blanc, comme au Vietnam, au Congo. Parlez un allemand impeccable, une étoile jaune entre les dents. Parlez russe, parlez rappel à l'ordre, parlez répression. Speak white, c'est une langue universelle. Nous sommes nés pour la comprendre avec ses mots lacrymogènes, avec ses mots matraques. Speak white, tell us again about freedom and democracy. Nous savons que liberté est un mot noir, comme la misère est nègre, et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger ou de Little Rock. Speak white. De Westminster à Washington, relayez-vous. Speak white comme à Wall Street, white comme à Watts. Be civilized! Et comprenez notre parler de circonstances. Quand vous nous demandez poliment, how do you do? Et nous entendez vous répondre, we're doing all right. We're doing fine. We are not alone. Nous savons que nous ne sommes pas seuls.
Voilà, bon, moi, ça me fait toujours un peu des frissons de la réécouter. Donc, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Langue de Fronde, spéciale langue. Donc là, on vient d'écouter Speak White de Michel Lalonde, un poème de 1968 que vous pouvez aussi réécouter sur YouTube. Je voulais juste conclure aussi en soulignant que du coup, ce poème, c'est formellement, elle mélange les deux langues, donc qui sont deux langues dominantes, le français et l'anglais, à l'échelle mondiale, mais qui, dans ce contexte et à ce moment-là particulier, l'une domine l'autre. Et que voilà, c'est quand même hyper intéressant cette façon dont elle écrit et elle parle, voilà, en mélangeant les deux langues. Et ça va nous permettre d'enchaîner sur peut-être sur Gloria Anzaldúa, qui peut avoir des pratiques similaires. Donc je te laisse continuer, Léa.
Alors donc moi j'avais envie de vous parler de Gloria Anzaldúa et surtout de vous lire des extraits du texte La conscience de la mestiza, qui a d'abord été traduit en français par Paola Bacchetta et Jules Falquet et publié dans les cahiers du CEDREF en 2011. La version originale de ce texte a été publiée en 1987 sous le titre La conciencia de la mestiza, Towards a New Consciousness, dans le livre Borderlands, La Frontera. Alors, qui est Gloria Anzaldúa? Elle est née en 1942 au Texas et décédée en 2004 à Santa Cruz. C'est une auteure, poétesse, universitaire et militante féministe lesbienne, Chicana. Chicana, parce qu'elle est originaire du Mexique et qu'elle a vécu aux États-Unis. Alors, on trouvait important de vous parler de ce texte, d'abord parce que le travail que fait Gloria Anzaldúa à partir des langues qu'elle côtoie, notamment le nahuatl, l'espagnol chicano et l'anglais, mais aussi pour la réflexion qu'elle mène autour de la notion de métissage et de nouvelle métisse, la new mestiza, qu'elle décrit comme une personne consciente de ses identités contradictoires, qui cherche à dépasser une vision un peu binaire imposée par le modèle occidental, où il ne s'agit pas d'être soit l'un, soit l'autre, soit chicana, soit texane, mais de conjuguer les ambiguïtés et les contradictions. Alors je vais vous lire quelques extraits maintenant. La culture dominante blanche nous tue lentement avec son ignorance. En nous ôtant notre auto-détermination, elle nous a affaiblis et vidés. En tant que peuple, nous avons résisté et nous nous sommes campés sur des positions de survie. Mais nous n'avons jamais été autorisés à nous développer sans obstacle. Nous n'avons jamais été autorisés à être pleinement nous-mêmes. Je suis visible. Regardez ce visage indien. Pourtant, je suis invisible. Je les aveugle avec mon nez alquilin, en même temps que je suis dans leur angle mort. Mais j'existe. Nous existons. Ils aimeraient penser que je me suis fondue dans leur melting pot. Mais je ne l'ai pas fait. Nous ne l'avons pas fait. Bercée dans une culture, prise en sandwich entre deux cultures, enjambant les trois cultures et leur système de valeurs, la mestiza subit une lutte de la chair, une lutte des frontières, une guerre intérieure. La nouvelle mestiza s'en sort, en développant une tolérance pour les contradictions, une tolérance pour l'ambiguïté. Elle apprend à être une indienne dans la culture mexicaine, à être mexicaine d'un point de vue anglo. Elle apprend à jongler avec les cultures. Elle a une personnalité plurielle, elle opère selon un mode pluraliste, rien n'est expulsé, le bon, le mauvais et le laid, rien n'est rejeté, rien n'est abandonné. Non seulement elle nourrit les contradictions, mais elle transforme l'ambivalence en quelque chose d'autre. Et cette mesure, c'est une rupture consciente avec toutes les traditions oppressives de toutes les cultures et religions. Elle fait connaître cette rupture, elle produit des traces de la lutte, elle réinterprète l'histoire et avec de nouveaux symboles, elle forme de nouveaux mythes. Elle adopte des perspectives nouvelles envers celles et ceux qui ont la peau foncée, envers toutes les femmes et les queers. Elle renforce sa tolérance et son intolérance envers l'ambiguïté. Elle est disposée à partager, à se rendre vulnérable, à des manières étrangères de voir et de penser. Elle renonce à toute notion de sécurité, à ce qui est familier, déconstruire, construire. Elle devient une nawal, capable de se transformer en arbre, en coyote, en une autre personne. Elle apprend à transformer le petit moi en soi total. C'est assez moldeadora de su alma. Según la concepción que tiene de sí misma, así será.
Merci Léa. Alors, comme vous avez pu le constater au début, donc, les petites expressions qu'on a lues, il y en avait certaines qui parlaient du silence, par exemple avoir avalé sa langue ou tenir sa langue, et d'autres aussi de la, bah, du coup, face à ce silence, de la nécessité de la prise de parole, comme délier les langues. Et voilà, moi j'avais envie de vous lire des extraits d'un texte très connu et très important qui s'appelle « Transformer le silence en parole et en acte », donc de la poétesse Audre Lorde. Donc voilà, je vais vous lire des petits extraits. Je suis de plus en plus convaincue que ce qui est essentiel pour moi doit être mis en mots, énoncé et partagé. Je suis ici debout, comme poète noire lesbienne. Et ce que j'ai le plus regretté, ce sont mes silences. De quoi avais-je donc eu si peur ? Quels sont les mots qui vous manquent encore ? Qu'avez-vous besoin de dire ? Quelles sont les tyrannies que vous avalez jour après jour et que vous essayez de faire vôtres jusqu'à vous en rendre malade à en crever, en silence, encore ? Peut-être que pour certaines d'entre vous, ici, aujourd'hui, je suis le visage d'une de vos peurs. Parce que je suis femme, parce que je suis noire, parce que je suis lesbienne, parce que je suis moi. Une poète guerrière noire qui fait son boulot, venue vous demander « Et vous ? Est-ce que vous faites le vôtre ?» Et bien sûr, j'ai peur. Car transformer le silence en parole et en action est un acte de révélation de soi, et cet acte semble toujours plein de dangers. La raison du silence, ce sont nos propres peurs. Mais le système essaiera de vous détruire en poussière de toute façon, que vous parliez ou non. Nous pouvons nous asseoir dans notre coin, muettes comme des tombes, pendant qu'on nous massacre, nous et nos sœurs, pendant qu'on défigure et qu'on détruit nos enfants, qu'on empoisonne notre terre. Nous pouvons nous terrer dans nos abris, muettes comme des carpes, mais nous n'en aurons pas moins peur. Si nous sommes toutes là aujourd'hui, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, nous partageons un même engagement envers le langage et le pouvoir des mots. C'est parce que nous sommes décidés à régénérer cette langue instrumentalisée contre nous. Pour transformer le silence en parole et en acte, il est fondamental que chacune de nous établisse et analyse sa place dans cette transformation et reconnaisse le rôle vital qu'elle joue. Pour celles qui écrivent, il est nécessaire d'examiner minutieusement non seulement la véracité de ce que nous disons, mais encore la véracité du langage que nous utilisons. Pour d'autres, il s'agira de partager et aussi de transmettre ces paroles qui font sens pour nous. Mais plus que tout, il est primordial, pour nous toutes, de montrer l'exemple en vivant et en nommant ces vérités auxquelles nous croyons et que nous détenons au-delà de notre entendement. C'est seulement ainsi que nous pourrons survivre, en prenant part à ce processus vital, créatif et continu qui s'appelle grandir. Et cela ne se fait jamais sans peur. Peur de la visibilité, de la lumière implacable de l'examen, peur d'être jugé peut-être, peur de la souffrance, peur de la mort. Mais nous avons déjà traversé tout cela, en silence, excepté la mort. Et quand les paroles des femmes crient pour être entendues, nous devons chacune prendre la responsabilité de chercher ces paroles, de les lire, de les partager et d'en saisir la pertinence pour nos vies. Le fait que nous soyons ici ensemble, que je prononce ces paroles, est une tentative de briser ce silence et de construire des ponts entre nos différences. Car ce ne sont pas nos différences qui nous immobilisent, c'est le silence. Et tant de silences doivent être brisés. Voilà.
Merci Olga. Et j'espère que vous n'êtes pas trop fatiguée après toutes ces lectures et... On va continuer, donc on est toujours sur Langue de Fronde, 106.3, fréquence Paris pluriel. Moi j'avais envie de vous parler maintenant d'un dossier qui est dans le dernier numéro de la revue Z, qui est consacré à la ville de Toulouse. Il y a un gros dossier sur la culture sourde et sur la défense de la langue des signes française, la LSF, et également sur le refus de la médicalisation par des personnes de la communauté sourde de Toulouse. Alors quand on parle de LSF, on parle bien d'une langue qui est signée par 100 000 à 200 000 personnes sourdes en France. La culture sourde, elle, par opposition à la culture entendante, est une culture minoritaire qui comprend un ensemble de pratiques, de lieux, d'environnements sociaux, d'une communauté de personnes et d'une langue, la LSF. Les personnes sourdes se battent pour que leur culture puisse vivre et exister parmi les autres et défendent donc la langue des signes. Dans le même sens, certaines personnes mènent un combat contre les appareils et implants auditifs, refusant d'être réparée par le son et les appareils. Pour la petite histoire, la langue des signes se formalise et s'institue en Europe à la fin du XVIIIe siècle, sous l'impulsion de l'abbé de l'Épée, qui ouvre à Paris la première école pour les personnes sourdes du monde. Et il y enseigne une méthode gestuelle inspirée d'observations auprès de sourdes et sourds qui utilisaient des gestes pour communiquer entre elles et eux. La LSF est défendue par opposition à l'oralisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'oralisme ? Ça désigne une méthode pour enseigner la langue orale, parler, à des personnes sourdes. Et l'oralisme triomphe à la fin du XIXe siècle, considérant que la parole orale est bien supérieure aux signes. La LSF est mise à mal, puis interdite. À la fin du XIXe siècle, la République française, qui, avec le président du Conseil, Jules Ferry, font du français la langue de la République, qu'il s'agit de généraliser sur l'ensemble du territoire, et interdisent l'emploi de la langue des signes française dans les écoles de sourds et sourds, et les professeurs sourds sont renvoyés, par exemple. On peut également se rappeler que le français n'était pas parlé par tout le monde en France à la fin du XIXe siècle, et que toutes les langues régionales ont été interdites à l'école et mises à mal sur le territoire. Et donc la langue des signes est interdite dans les écoles jusqu'en 1976, et ce n'est vraiment qu'en 1991 que l'Assemblée nationale accepte l'utilisation de la langue des signes française dans l'éducation des enfants sourds et sourds. Je cite ce que nous dit la loi du 18 janvier 1991. « Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et français, et une communication orale est de droit. » Mais aujourd'hui, dans les faits, seulement 5% des jeunes sourds et sourds ont accès à un dispositif d'enseignement en LSF. D'après l'article, donc je lis dans le numéro de la revue Z, même à Toulouse, seule agglomération a proposé un cursus complet de la maternelle au lycée, une filière universitaire de traduction et d'interprétariat et bientôt une crèche bilingue associative, les effectifs sont restreints et la majorité des enfants sourds sont en établissement spécialisé ou en intégration. Intégration, ça veut dire scolariser en milieu ordinaire, comme on le dit si bien à l'éducation nationale. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres d'une langue qui a été mise à mal et qui a été condamnée et privée de ces interactions entre ses locutrices et ses locuteurs. Et on trouvait ça important d'en parler pour cette émission.
Merci Léa. On va faire une petite pause sonore avec un petit peu de beatbox. Donc, juste pour vous introduire, le human beatbox ou boîte à rythme humaine est une pratique qui consiste à faire des bruits avec toute sa bouche, sa langue, ses lèvres, sa voix. Aujourd'hui, elle est très connectée au hip-hop et au monde anglo-saxon, d'où du coup le nombreux vocabulaire anglais. Et on retrouve différentes battles ou alors duels où on s'affronte différentes beatboxes sur la scène internationale. Je vous propose donc deux extraits, l'un très hip-hop, d'une jeune femme dans une confrontation de beatbox avec son père. On va juste avoir le temps d'écouter la jeune femme. Et une autre plus polyphonique de la championne du monde de beatbox meuf en 2012, Penchen Kata.
Me and my daughter Nicole, I guess this will be battle part 2. Here we go.
Smash that. For God I live, for God I die, for God I live, for God I die, for God I live, for God I die, for God I live, This is no battle. Ha. Ha. Wait, but didn't I defeat you already? Capture that. Finish. 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 come back, came back. Round two, no more. Round two, one, kick, round two, kick, one, two, kick, and pick him up, kick him up, kick, kick, rocks. Blit, come on in the boot to the kid, please. Ha! Finish. Pick it, finish on that. Ha!
Hello, this is Pechenkata, Pechenkata. Welcome to my world.
FPP 106.3 dans l'émission Langue de Fronde. Après cette petite pause énergique, je vous propose de parler un petit peu de la langue non sexiste. Alors, juste pour débuter, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par exemple, de vous demander pourquoi est-ce qu'on dit qu'un mot est féminin ou masculin ? Est-ce qu'on dit une testicule ou un vagin ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'aussi, il vous est déjà arrivé de buter sur le nom d'un métier pour une meuf ? On dit auteur, autrice, autresse. C'est quoi le féminin de docteur, médecin, chirurgien, peintre ? Enfin bon, bref. Et surtout aussi, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire reprendre quand vous inventez des mots féminins ? Ou alors est-ce qu'on trouve que votre texte que vous avez mis féminisé, il est juste trop lourd ou qu'on n'y comprend rien, quoi ? Eh bien voilà, on veut vous parler un petit peu de tout ça et vous donner un petit peu d'envie d'écrire des textes non sexistes.
Alors il y en a beaucoup qui disent que le genre humain et le genre grammatical, ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est pas du tout lié, quoi. Donc autrement dit, tout ça, là, c'est dans nos têtes. Et pourtant, on sent bien qu'il n'y a pas d'un côté le langage et de l'autre le monde social. Enfin, les deux, ils sont quand même hyper connectés. Et on avait envie de vous citer des personnes qui ont réfléchi là-dessus et qui ont montré avec des mots, avec leur langue, que c'était bel et bien le cas. Du coup, il y a un dossier, par exemple, de la revue Nouvelles Questions Féministes, dont le blog Les mots sont importants a publié des extraits. Et dans ce texte, les auteurs montrent notamment que la langue est... les inégalités sociales et l'égalité sociale sont vraiment liées. Donc je cite. Le symbolisme social étant véhiculé, structuré par le langage, c'est toute une conception du monde qui est impliquée. Les travaux en psychologie sociale ont montré que le genre grammatical influence la représentation qu'on se fait des métiers. L'utilisation du masculin, dit générique, biaise la représentation sociale des genres en défaveur des femmes, et ceci de façon systématique. Alors que l'utilisation des vocables au féminin et au masculin permet aux filles comme aux garçons de s'investir émotionnellement et intellectuellement dans la profession. En effet, la dénomination au masculin tend à dévaloriser le féminin. On parlera d'une directrice d'école, mais d'un directeur de cabinet. D'un secrétaire d'État, mais d'une secrétaire de direction. On trouve aussi une liste de récipiendaires de la Légion d'honneur avec Monique Berliou, ancien directeur de l'équipe olympique, mais Madame Claude Bessy, directrice de l'école de danse de l'Opéra. Bizarre, hein ?
Donc on voit bien que cette binarité entraîne une hiérarchisation sociale, mettant le féminin et les femmes au bas de l'échelle et associe le masculin au noble et au haut. Alors je voudrais vous retracer peut-être un petit peu l'historique de la création de l'Académie française, parce que tout ça, c'est un petit peu lié. On se dit que le féminisme, la féminisation du français, le fait de le faire, ça nous semble ou ça peut sembler en tout cas à certains et certaines problématiques, voire incorrectes, parce qu'il y a quelque part l'Académie française qui nous dit que bouh, non, c'est pas bien, et la pureté de la langue, et voilà. Mais juste une petite remise en contexte de la création donc, de l'Académie française. Un petit point histoire fait par Eliane Viennot, que Agnès Girard nous fait découvrir dans son blog Les 400 Q de Libération. Elle nous explique que de nombreuses règles de grammaire, de conjugaison et de masculinisation ont été en fait des choix politiques et sont apparues dans un contexte de crise dynastique. Donc en fait, il n'a pas dû. Ce qu'on connaît, les mots et la féminisation, masculinisation des mots, elle a été créée, enfin une partie en tout cas, a été à un certain moment décidée. Donc le contexte, c'est tout d'abord Henri IV qui a, pour prendre le pouvoir, il a exhumé et sorti de son contexte un article de la loi dit salique, datant de Clovis, pour justifier l'interdiction faite aux femmes de succéder au trône de France. S'en est suivi une vague de textes d'auteurs qui tendent à corriger la langue et à la masculiniser, comme Malherbe, alors que des femmes lettrées prennent la plume pour s'insurger contre. Henri IV mort, puis aussi Louis XIII, et on est dans un contexte où les femmes de la cour et les femmes de lettres sont au pouvoir. Et dans ce cadre-là, en fait, le cardinal Richelieu écarte Marie de Médicis du pouvoir et crée l'Académie française en 1635. Et donc, je cite sur la création et aussi sur ce qui a été modifié. « Certains métiers qui jusqu'ici étaient déclinés au féminin se voient systématiquement neutralisés, entre guillemets. Alors qu'au XVIe siècle, il existait couramment des mots comme poétesse, philosophesse, médecine, autrice, peintresse, apprentisse, doyenne, empereurière, financière, officière. La réforme impose de faire disparaître le féminin de tous les mots trop savants. Désormais, il faut dire « cette femme est poète, philosophe, médecin, auteur ». Eliane Viennot note avec ironie « si philosophesse recule vite, c'est à l'évidence en raison du son « fesse » que l'on y entend ». Et que les ennemis de la créature en question ne se privent pas de mettre en évidence. Ses partisans battront donc vite en retraite, mais l'on sera désormais obligé d'adjoindre à philosophe le mot « femme » afin de lever la confusion possible. D'autant que parallèlement, l'offensive pour dénier aux femmes la capacité d'exercer cette activité va bon train. Une partie des autres mots en « s » sera petit à petit entraînée dans ce discrédit, quoi qu'on n'y aperçoive aucune fesse. Vaincresse, capitainesse, beaucoup perdureront en revanche longtemps d'une part dans la langue juridique où la clarté est nécessaire, demanderesse, défendresse, d'autre part dans la langue commune, pauvresse, poétesse, prophétesse se maintiendrait contre vents et marées jusqu'à nos jours. Puis les puristes se donnent la tâche de masculiniser les mots importants, synonymes de force et de puissance, ainsi que les mots qui finissent par les sons durs. Par exemple, ce n'est point un duel, ce n'est qu'une simple rencontre. On voit aussi, par exemple, la récupération opportuniste du mot aigle, qui était avant féminin, qui passe au masculin avec le premier empire, par analogie avec Napoléon, qui avait identifié cet animal avec son pouvoir.
Wow. Et tu voulais dire quelque chose, Mike ? C'est fou, non ?
C'est fou.
Et donc, non seulement l'Académie française a été créée dans une volonté de prise de pouvoir du masculin sur le féminin, mais elle a de fait activement transformé la langue. Elle n'a pas simplement maintenu ou essayé de la protéger. En fait, il y a eu une véritable transformation à cette époque. Et alors, si le genre grammatical n'avait rien à voir avec le genre humain, si la langue était neutre, pourquoi est-ce qu'autant de gens ont lutté pour transformer des mots au masculin et pour le contrôle et le maintien de règles grammaticales et syntaxiques, franchement ? Par ailleurs, aujourd'hui, enfin, c'est important de rappeler que l'Académie française ne codifie pas la langue. Sa tâche, qui date de 1637, c'est toujours la même, elle est de nettoyer la langue des ordures qu'elle avait contractées ou dans la bouche du peuple ou dans la bouche du palais. Sa fonction principale allait être de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les scènes, et les sciences. Pardon. Donc le contrôle de la langue... aujourd'hui, en dehors de l'éducation nationale, il est assuré depuis un décret qui date du 31 mars 1966 par trois commissions qui dépendent du Haut Comité pour la Défense et l'Expansion de la Langue Française. Il y a plein de textes là-dessus. Je vous invite à lire l'article qu'on vous a cité donc, sur le blog Les 400 Q d'Agnès Girard, qui est vraiment passionnant. Et en fait,
on mettra le
lien sur le blog, ouais. Carrément. Et puis, dans ce texte, on apprend aussi qu'il existe tout un réseau de grammairiennes qui étudient, qui analysent, qui cherchent à construire un discours non discriminatoire. Et de la même manière, on pourra vous mettre en lien, enfin, sur le blog, des textes qui cherchent aussi à sortir d'une certaine binarité, sortir du masculin, du féminin, en utilisant des lettres neutres, des apostrophes, des pronoms, et qui échappent à cette binarité de la langue aussi. Donc voilà, c'est un peu petit topo.
On vous finit avec une petite citation, toujours d'actualité, d'Hubertine Auclair, qui écrivait en 1899 « L'omission du féminin dans le dictionnaire contribue plus qu'on le croit à l'omission du féminin dans le code, code des droits. L'émancipation par le langage ne doit pas être dédaignée. N'est-ce pas à force de prononcer certains mots qu'on finit par en accepter le sens qui tout d'abord heurtait ? La féminisation de la langue est urgente, puisque pour exprimer la qualité de quelques droits conquis donne à la femme, il n'y a pas de mots. En mettant au point la langue, on rectifie les usages dans le sens de l'égalité des deux sexes. La féminisation initiale est celle de la langue, car le féminin non distinctement établi sera toujours absorbé par le masculin. »
Tadam.
merci Théo, merci Léa. On va bientôt faire une petite pause musicale, mais que je vais introduire en parlant rapidement des langues construites. Alors, appelées comme telles, donc langue construite ou idéolangue, parfois aussi appelée langue artificielle. Qu'est-ce que c'est ? C'est une langue créée par une ou deux personnes dans un temps relativement bref, contrairement aux langues dites naturelles, dont l'élaboration est largement spontanée. Donc bon, évidemment, on se rend compte que toutes les deux sont in fine des créations de l'espèce humaine et qu'il est un peu difficile de cloisonner les langues dans ces deux catégories entre naturelles et construites. Mais bon, partons de cette idée que les langues construites l'ont été dans un temps très court et de façon volontaire et consciente. L'une des plus connues, c'est par exemple l'espéranto, qui a été conçu dans l'objectif d'être une langue facile à apprendre, plus facile que les langues dites naturelles. Mais je voulais aussi surtout citer rapidement quelques langues fictionnelles, donc qui font partie des langues construites. Les langues fictionnelles, ce sont les langues qui ont été inventées dans le cadre d'œuvres de fiction. Alors, on a par exemple... Alors, désolé d'avance pour les puristes si je prononce mal le nom de ces langues, puisque je les ai toujours que lues... Enfin, voilà, j'ai toujours vu que leur nom à l'écrit, mais je ne suis pas sûre de les prononcer correctement. Mais donc, on a le Klingon, qui est la langue parlée par les Klingons dans Star Trek. On a le Dothraki, qui est la langue parlée par le peuple du même nom dans Le Trône de Fer et la série qui en est tirée, Game of Thrones. On a le Na'vi, N-A-V-I, qui est la langue parlée par les autochtones de la planète Pandora dans le film Avatar de James Cameron. Et je finirai par le Schtroumpf, qui est la langue parlée par les Schtroumpfs, et qui repose sur le principe de remplacer un ou plusieurs mots d'une phrase par le mot Schtroumpf. Voilà, et du coup, ceci permettait d'introduire la chanson qu'on va écouter. Vas-y Léa, je te laisse en parler rapidement.
Oui, donc rapidement, c'est une chanson qui s'appelle Dasun, du duo de musiciennes Mong. Elles viennent de Dordogne, elles font franchement de la super musique et donc elles mélangent plein de styles et surtout elles ont construit une langue, inventé une langue qui s'appelle l'isalien. Alors je cite pour elles, le but de cette langue, c'est d'arrêter d'intellectualiser la musique et de parler avec les tripes. Chaque son évoque une émotion et chacun, chacune peut y mettre son propre ressenti. Voilà.
Et oui, vous êtes toujours sur FPP 106.3 FM dans l'émission Langue de Fronde. Alors on va bientôt clôturer et on voulait vous faire un petit clin d'œil avec comment et dans quel contexte utiliser le chip. Voilà, une petite bande sonore.
Bonjour! Il y a près de 2 semaines, un article paru dans Figaro m'a particulièrement fait rire parce qu'il parlait d'interdire le chip dans les établissements parce que trop vulgaire. Wouh! Le chip, c'est quoi? Bon, c'est un peu chaud si vous connaissez pas, mais bon, comme on est dans la chronique, je me dois de vous donner une définition assez correcte, sans rigoler. Le chip, c'est un élément de communication non verbale, techniquement. Il s'agit de produire un bruit de succion modulé par le passage de la langue et la position des lèvres. Le bruit produit peut être rendu par l'onomatopée chip, le i pouvant être plus ou moins prolongé. Le chipage comporte souvent également un mouvement de tête dans le mouvement opposé du mouvement de la langue et peut même être complété d'une posture spécifique. J'arriverai jamais à finir cet épisode. Il n'existe donc pas un seul chip, mais une multitude de chips, considérés comme une insulte concentrée de dédain d'après Christiane Taubira. Merci Wikipédia. Bon, vous avez pas vu que je suis pas norvégienne, de plus j'habite en Guadeloupe, donc le chip pour moi c'est tous les jours. Je chip quand je me fais mal. Quand je fais tomber quelque chose. Ou quand je suis saoulée, tout simplement. Alors, pour moi, c'est juste normal et je trouve pas ça plus insultant que ça. Le pire, c'est que dans l'article, ce sont des profs qui se plaignent. Mais ici, c'est les profs qui nous chipent. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais vous en faites quoi du wesh? Ma vie est peut-être barbante, mais vous devez vous faire sacrément chier pour la regarder.
Bonjour.
On arrive au terme de notre émission sur les langues. Et donc aujourd'hui, il y avait toute l'équipe qui était là avec nous. Donc il y avait Maïk, Théo, Léa, moi-même, Olga. Et en technique, on avait une équipe de choc avec Kla, Céline et Esmeralda qui nous rejoint cette année, à qui nous souhaitons la bienvenue parmi nous. Voilà, voilà. Et donc, petit agenda vite fait avant de vous laisser et de passer le micro à l'émission d'après. Ce mercredi 14, bon, je sais ouais, plus quand ça. On est, donc à 14h, une manif contre la pénalisation des travailleurs travailleuses du sexe devant le Sénat. Ce samedi à 14h, il y a l'Existrance, donc qui est la 19e marche des trans, des intersexes et des personnes qui les soutiennent. C'est à Place Stalingrad.
À Paris, ouais.
Oui, c'est à Paris. Excusez-moi. Oui, oui.
C'est un petit peu parisiano-centré cet agenda, désolée.
Oui, donc tout ça se passe à Paris, pardon, mais à culpa, en même temps, on est sur fréquence Paris pluriel. Donc voilà, bref. Donc samedi à 18h, il y a une conférence gesticulée, le clito, un petit nom qui en dit long, à la Bourse du Travail de Saint-Denis.
Voilà.
Voilà, hein, quand même.
Pas que
à Paris. Et samedi 31 octobre à 14h, la marche de la dignité et contre le racisme, donc le rendez-vous est à Barbès. Voilà, on espère que vous avez bien apprécié cette émission. On vous mettra donc tous les liens sur notre blog, donc je rappelle languedefronde.noblog avec un S à noblog.org. Et voilà, on vous mettra donc tous les livres, les titres. Moi, je vous conseille un petit film, si vous n'avez rien à faire ce soir, c'est Tongues United de Marlon Riggs, qui est sorti en 89 et qui est sur les hommes, j'ai l'anglais et le français qui se mélangent, Black Gay Men, donc c'est les hommes gays noirs aux États-Unis. Voilà, voilà, je pense qu'on va vous faire des gros bisous.
Bisous.
Et vous encourager à réinventer la langue, à réinventer plein de nouvelles langues non sexistes, qui mêlent plein de langages différents.
À l'écrit comme à l'oral.
à l'écrit comme à l'oral, c'est ça. Et à nous envoyer toutes vos inventions qu'on passera. Voilà, voilà. Des bisous, à bientôt.
Salut.
Ciao. You hit a strings, nigga. But on the flip side of this thong shit, this is what bitches talk about. What niggas need to do with what's in the thong. Heard me? Yo, check it out. This might sound so scandalous, but it's the truth and men can't handle it. See, most of the time the nigga dick ain't shit. Need to go a step further and lick the clit. Keep licking till you hit my spot. Nigga, fuck all the jewels in the bougie pot. You get no skins, just come in with cot. Put your face all in my cho-cha. Cause I'm gon' get a nut, nut, nut. Head like what, what, what? Hands under my butt, butt, butt. You need to lick it again. Come on. Cause I'm gon' get a nut, nut, nut. Head like what, what, what? All night long. Need to go a step further and lick the clit. Keep licking till you hit my spot. Nigga, fuck all the jewels in the bougie pot. You get no skins, just come in with cot. Put your face all in my cho-cha. Cause I'm gon' get a nut, nut, nut. Head like what, what, what? Hands under my butt, butt, butt. You need to lick it again. Come on. Cause I'm gon' get a nut, nut, nut. Head like what, what, what? All night long. Cause all they wanna do is